autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous mettre à table aujourd'hui. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Comment notre alimentation nous façonne et nourrit aussi nos identités à travers nos pratiques culturelles, rituelles, nos tabous et nos interdits. Quel rôle a joué notre alimentation dans notre évolution et vice-versa? Et qui mange qui? Pourquoi tant de goûts et de couleurs? Qu'est-ce que ça dit de nous? Autant de questions ouvertes dans la nouvelle exposition du Musée de l'Homme. Je mange, donc je suis, à déguster sans aucune modération avec nos invités, le biophysicien gastronome Christophe Lavelle, commissaire scientifique de cette exposition, et le biologiste Marc-André Sellos, professeur au Muséum Histoire Naturelle, qui vient de publier « Les goûts et les couleurs du monde » autour de la question « Qu'est-ce qu'on mange ?» Bienvenue et bon appétit.
Mais moi non plus, j'ai pas faim. En voilà une excuse. Alors attention, Albert. Si tu commences à t'écouter, t'es bon pour retourner chez Geneviève. Et becter son cachou.
Si barbouillé.
Eh ben débarbouille-toi, la tuborg, c'est fait pour ça. Hein, y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. Ça glisse.
Ça glisse, oui.
Ah, la bonne heure. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Prends de la moutarde. Prends des cornichons, hein, allez. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail?
Oh non.
Bah moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques.
Ah ouais.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Si c'est Jean-Pierre Marielle qui le dit, à Jean Rochefort en plus, en 1976, dans cet extrait du film Calmos, histoire de nous ouvrir l'appétit, autour de la question « Qu'est-ce qu'on mange et pourquoi ?» Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous pour nous donner un avant-goût de cette exposition « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme à Paris, dont vous êtes, Christophe Lavelle, le commissaire scientifique, et pour cause, notre alimentation est au centre de vos recherches et de vos passions. Le biophysicien, cuisinier, gastronome que vous êtes, chercheur au CNRS et au Muséum, fondateur du Food Lab 2.0, partage son temps entre cuisine et laboratoire. Vous enseignez à l'université comme dans les écoles de cuisine et vous avez collaboré avec les plus grands chefs et participé à de nombreux ouvrages de sciences culinaires. Un domaine forcément interdisciplinaire qui fait appel aussi bien à la physique, à la chimie des molécules qu'à l'anthropologie ou à l'ethnologie, à l'art culinaire et à la culture gastronomique. Quand on mange, on nourrit son corps, mais pas seulement, Christophe Lavelle, on nourrit aussi son esprit, on façonne son identité. Dis-moi ce que tu manges, comment et pourquoi, et je te dirai qui tu es. C'est finalement une fantastique grille de lecture, la nourriture, l'alimentation.
Alors c'est une grille de lecture et c'est quelque chose à la fois d'obligatoire d'un point de vue nutritionnel et du coup autant en profiter pour qu'en même temps ça soit agréable. Donc c'est pour ça que les deux composantes sont totalement indissociables, le côté physiologique et le côté hédonique de l'alimentation. Ça serait vraiment dommage d'avoir l'un et pas l'autre. Donc vu que l'un est obligatoire, prenons l'autre avec.
Prenons le plaisir avec l'obligatoire. Et puis ça touche à tout, la nourriture, l'alimentation, ça dit beaucoup de nous, de qui nous sommes, de comment nous avons été élevé, comment nous avons évolué.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a l'évolution, donc ça c'est plus le caractère physiologique d'où on vient, la longue histoire de l'évolution humaine, et puis aujourd'hui, ce que l'on mange est aussi très fortement marqué par une histoire beaucoup plus courte qu'une histoire culturelle. Alors quand je dis plus courte, c'est à l'échelle de l'évolution humaine, toujours pareil, mais on a vraiment cette double composante physiologique, éventuellement génétique, et puis purement culturelle, qui fait que sur l'endroit où on est né, on ne va pas avoir les goûts ou les mêmes dégoûts, d'ailleurs.
Marc-André Sellos, alors vous êtes biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialisé en mycologie. Vos recherches portent sur les symbioses, les associations à bénéfice mutuel impliquant des champignons, mais aussi toutes les petites bêtes, microbes, bactéries qui nous habitent et qui nous nourrissent autant que nous nous nourrissons d'eux. Qui mange qui, ça en va y venir, car on n'est jamais seul. Pour reprendre le titre de votre précédent ouvrage, vous venez de publier, Marc-André Sellos, toujours aux éditions Actes Sud, « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, ouvrage fascinant, érudit et drôle, où l'on découvre l'omniprésence des tanins dans tout le vivant végétal qui nous nourrit. Ce sont eux, les tanins, toxiques ou bénéfiques, qui colorent nos vies, qui donnent du goût à notre monde. Un monde où le vivant se nourrit du vivant. Qui mange qui nourrit qui? C'est une question qui vous travaille, Marc-André Sellos.
Ben oui, qui nous travaille, mais qui ne travaille pas que moi, qui travaille aussi le paysage, l'environnement qui nous structure. Depuis qu'on est passé à l'agriculture, d'abord en Asie, puis en Europe, puis en Amérique, indépendamment, les peuplades humaines sont passées à l'agriculture et elles ont commencé à construire des relations complexes avec le paysage et d'autres espèces. Regardez la campagne française, hein, elle est complètement construite par l'agriculture. L'action de manger, c'est une action qui a des répercussions en termes de relations aux autres espèces et à notre environnement extrêmement complexes. On a même finalement inventé littéralement des espèces qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans la nature et qui, après des temps de domestication, sont devenues le maïs ou la vache. Je veux dire, quand on regarde les parents sauvages, éteints pour la vache, c'est l'auroch, ou vivants pour le maïs, c'est la théosinte. Quand on regarde les parents sauvages des formes cultivées, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, nous avons en fait reconstruit le monde avec notre alimentation.
On a reconstruit le monde avec notre alimentation, une alimentation qui nous façonne aussi. Donc on a refaçonné le monde et en retour, notre alimentation nous façonne aussi biologiquement et culturellement, comme le disait Christophe Lavelle.
Mais absolument, nous avons évolué en fonction de ces aliments et de génération en génération, nous sommes aussi adaptés aux aliments disponibles. Les populations qui pratiquent la culture des céréales ont par exemple davantage d'amylase dans la bouche qui leur permet, et ça c'est un trait génétique, qui leur permet de mieux digérer l'amidon des céréales. Les populations qui ont à leur disposition des vaches et qui utilisent le lait se sont lentement adaptées à digérer le lait à l'âge adulte, une chose que les autres mammifères ne font pas et qui fait de nous un peu des mammifères contre nature, mais en tout cas adaptées à leur... Et donc, effectivement, oui, vous avez raison, nous avons été aussi façonnés par cette alimentation que nous avons construite autour de nous.
Autour de la question « qu'est-ce qu'on mange et pourquoi ?», je vous propose une petite dégustation sonore avec le mix à table mijoté par Hugo Violas.
Qu'est-ce que tu manges?
Ça, bon poisson.
Beaucoup bon goût.
Et où est-ce que t'étais chercher ça?
Réserve maison.
Alors, le cassoulet, c'est le dieu de la cuisine occitane. C'est au XIIIe et XIVe siècle qu'on a commencé à élaborer le cassoulet.
Aujourd'hui, je vais vous préparer un couscous à la marocaine au poulet et légumes.
Il faut que tu sépares les vers en deux.
Ok. Ah, ils sont encore vivants, hein. Ça, c'est quoi?
C'est du sel.
C'est cuit?
L'odeur n'est pas mauvaise, mais le goût.
Donc toi, tu croyais vraiment que tu pouvais nourrir des acariens
avec
des
carottes? Je savais que si un acarien était végétarien ou omnivore.
Dattes, abricots, figues, raisins, tous ces fruits séchés vont pouvoir être consommés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une technique de conservation utilisée depuis le néolithique il y a 4000 ans.
Sans anticiper, on peut dire que quand on est omnivore, on met toutes les chances de son côté pour assurer une bonne vie cellulaire et un bon maintien dans la partie adulte de la vie.
Fabriqués proprement avec les meilleures épices saines et naturelles, les piments Baramuso sont préparés pour pimenter votre vie. Baramuso, Italica Kouye.
Si on recherche, on peut s'apercevoir que l'agneau, ça a été le mets préféré des civilisations très 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 anciennes.
Et c'est très ancien, c'est vrai.
Super, pas de dessert, hein?
Non, non mais une autre pizza par contre, la même.
Ça roule.
Pizza, couscous, mafé ou bento autour de la question qu'est-ce qu'on mange, pourquoi et comment expliquer une telle diversité dans notre alimentation? Parce que nous sommes des omnivores, c'est ça?
Alors,
Christophe Lavelle.
Oui, nous sommes des omnivores par défaut et on a raison de l'être d'une certaine manière. Comme vient de le dire Marc-André, on a un environnement à notre disposition qui est très différent suivant l'endroit où on se trouve sur la planète. Et cet environnement, toute société n'a qu'une envie, c'est de l'utiliser de manière optimale. Après, cette manière optimale, elle va tenir compte des contraintes qui peuvent être des contraintes physiologiques, des contraintes justement de pratiques, des outils qu'on a pour attraper cet environnement ou pour le cueillir ou pour le mettre en culture, comme on vient de le mentionner. Et puis, des contraintes qu'on va se rajouter, d'une certaine manière, qui vont être d'origine purement alors, culturelle. Donc ça englobe le religieux, ça englobe beaucoup de choses. On peut fouiller dans l'histoire. Parfois, on peut trouver des origines physiologiques à des contraintes qui aujourd'hui sont devenues culturelles, pour des raisons sanitaires ou autres. Mais globalement, on a cet ensemble de facteurs à prendre en compte pour se construire une alimentation. Et bien sûr, par-dessus tout ça, revient encore une fois quand même la notion du plaisir, la notion de l'inventivité, la prodigieuse diversité des recettes qu'on voit aujourd'hui.
Oui, surtout parce qu'on cuisine. Hein,
on cuisine, on transforme. C'est-à-dire que les actions de cuisiner, alors le cuisiner, coquere, vient du latin, il veut dire cuire, mais on ne fait pas que cuire, on transforme de manière globale les aliments mécaniquement, physiquement ou chimiquement, à travers des fermentations, des cuissons, des découpes, tout ce qu'on peut imaginer. Et cette transformation est au cœur de cette prodigieuse variété de notre alimentation. Rien qu'à voir aujourd'hui un pâtissier avec 3-4 ingrédients, il nous fait des centaines de gâteaux différents. Donc c'est vraiment ça aussi qui est assez fantastique dans cette capacité qu'a eu l'homme à développer des recettes aussi variées.
Marc-André Sellos, est-ce que cette ingéniosité s'explique justement par le fait qu'on est omnivore et qu'on pourrait quoi ? On pourrait tout manger, mais petit à petit, on a refermé un peu le champ des possibles ou...
Alors, comme l'évoquait Christophe, on le referme à la fois par des attitudes culturelles ou aussi par le milieu où l'on est. Il est évident qu'un Inuit d'un côté et un pêcheur de coquillages des îles Chatham dans le sud du Pacifique ne vont pas avoir accès à la même nourriture. Hein. Mais effectivement, à la base, on a quand même un système digestif qui tape large, on va dire. Il a une batterie d'enzymes qui lui permettent de digérer tout un tas de molécules dans les aliments. Et en plus, les préparations auxquelles on soumet les aliments, c'est notamment la cuisson, hein, vont rendre ces aliments, les gestes qu'on fait aux aliments, les rendre encore plus digestes. Et finalement, effectivement, on a accès à plein de choses. C'est un gage de succès. Ça explique ce succès de l'humanité qui s'est finalement répandu sous toutes les latitudes et
dans
tous les écosystèmes.
Capable de se nourrir de tout, finalement.
Mais ça a un revers de la médaille. C'est que finalement, je peux mettre n'importe quoi dans ma bouche. Si j'étais un koala, je ne mettrais que de l'eucalyptus et je saurais, ou je ne saurais pas, mais en tout cas, je serais parfaitement adapté à l'eucalyptus. Le problème, c'est que quand on met n'importe quoi dans sa bouche, quand on peut manger n'importe quoi, il y a toujours des molécules qui traînent par là, qui ne sont pas idéales pour la santé. Et finalement, nous ne sommes parfaitement adaptés à aucun aliment. C'est ce qui fait le lit de tous ces racontars qui courent partout, que tel aliment finit par nous tuer, tel aliment n'est pas bon. Et c'est vrai, aucun aliment n'est parfaitement bon. Ça débouche.
C'est quoi, c'est la dose qui fait le poison ou pas seulement ?
L'idée, c'est que du coup, il va falloir abuser d'aucun aliment parce qu'aucun ne suffit, aucun n'est indemne de toxicité en quantité élevée. Effectivement, le cœur de la réussite que dans nos sociétés modernes avec des approvisionnements variés, on peut réaliser, ce n'était pas forcément le cas autrefois, le cœur de la réussite, c'est une alimentation variée et qui ne s'obstine pas à manger un seul aliment, un seul végétal, que du cru, que du... Et il faut mélanger parce que nous sommes faits pour le mélange et que rien ne nous suffit en soi.
Ça, on a bien compris qu'on est omnivore, donc rien ne nous suffit et tout, on pourrait tout manger, sauf ce qui nous fait du mal. Est-ce que nos goûts ou nos dégoûts, ils sont liés à ça ? Est-ce qu'ils sont biologiques ? Est-ce qu'ils sont culturels ? Est-ce que c'est les deux ? Nos goûts et nos dégoûts alimentaires, Christophe Lavelle ?
Il y a bien sûr des deux. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, on a des réactions à certaines molécules. Par exemple, on mentionne souvent l'amertume, qui n'est pas du tout un goût inné. On le rejette parce que, et ça Marc-André pourra en redire beaucoup de choses, on a une des molécules qui sont souvent justement associées à ces fameux poisons qu'on peut trouver dans certains végétaux. Donc cette amertume fonctionne comme un signal d'alerte. Donc on n'a pas envie de l'aimer en fait. Sauf qu'on finit éventuellement par développer cette appétence pour l'amertume parce que culturellement, on va voir que les gens ils boivent de la bière et ils ont ce plaisir-là. Et alors pourquoi est-ce que moi j'aurais pas ce plaisir-là ? Alors je me mets aussi à boire de la bière ou du café. Toutes ces boissons qui sont devenues presque universelles, qui pourtant, justement, sont les boissons emblématiques de ce goût amer que l'on retrouve. Donc on va lutter contre cette physiologie et culturellement passer outre et se mettre à apprécier réellement un mets que nous n'aurions pas apprécié sans cette pression culturelle. Donc on a vraiment cette ambivalence, on va dire. Pour l'autre côté, on a le sucré, qui spontanément, on va aimer, mais ça n'empêche pas qu'à l'échelle individuelle, ça va être plus ou moins apprécié. Des gens qui disent, moi, le sucre, ça, je n'en veux pas, j'aime pas, parce qu'ils sont écœurés, ou parce que, pour une raison purement individuelle, ça ne correspond pas à leur goût. Donc le goût, c'est à la fois un mélange de pression sociétale, mais aussi, bien entendu, et heureusement, une variété inter-individu qui fait que chacun développe son propre goût avec tout cet environnement.
Mais aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. On a d'ailleurs des messages sur les réseaux sociaux qui montrent bien que partout dans le monde, on est un peu inquiet face à la nourriture. On ne sait pas trop quoi manger, ce qu'il est bon de manger pour notre santé, pour l'environnement, pour la planète, pour notre éthique aussi. Autour de la question, qu'est-ce qu'on mange ? Je propose une nouvelle question soulevée par une primatologue que vous connaissez bien, Sabrina Krief, du Muséum nationale d'histoire naturelle, qui elle aussi a participé à cette exposition. Sabrina était récemment notre invitée pour partager son quotidien auprès des chimpanzés qu'elle suit à la trace. Écoutez-la, c'est pour vous.
Je me demande souvent, parce qu'il y a une certaine mode qui se tourne vers les régimes paléolithiques et certaines personnes qui ont testé les régimes chimpanzés. Qu'est-ce que vous pensez de ces régimes-là, de la crudivorie, des impacts que ça a sur le goût des aliments, sur la perte d'activité biologique aussi, hein, puisqu'on détoxifie les aliments, mais en même temps, on perd les propriétés potentiellement pharmaceutiques.
Donc, quand on les cuit.
Quand on les cuit. Donc voilà, je me demandais si Marc-André et Christophe avaient une opinion là-dessus.
Qui veut répondre à Sabrina Krief?
Je laisse démarrer.
Allez, bah, Marc-André Félix.
Oui, alors c'est évident qu'un des traits particuliers de l'humanité, c'est de cuire les aliments. Et la cuisson, elle va débobiner un petit peu les protéines, gélatinifier l'amidon et faire que toutes ces molécules qui sont difficiles à digérer vont être plus accessibles aux enzymes qui les dégradent et libérer plus de potentiel nutritif. On compte qu'un œuf cuit est 42% plus nourrissant qu'un œuf pas cuit.
Parce qu'il est plus digeste, parce qu'on va plus absorber...
Voilà. Nos enzymes ont plus accès aux molécules qui ont été endommagées lors de la cuisson et mobilisent mieux le pouvoir nutritif. Et ça, il y a plein de traits qui montrent que l'homme est profondément construit autour de l'aliment cuit. Le premier trait, par exemple, c'est qu'on sait très bien que la crudivorie ne nourrit pas. Ça entraîne des déficits alimentaires et une des premières choses que ça entraîne chez les femmes, c'est l'absence de menstruation. Chez l'homme, c'est des baisses de libido. Et on voit très bien qu'on n'est pas du tout sélectionné pour se
nourrir
d'aliments...
Pour ne manger que cru.
Excusez-moi, cru. L'autre chose, c'est regarder la taille de notre bouche par rapport à celle des primates ou même la longueur. Alors ça se voit moins, mais de notre tube digestif par rapport à celle de nos cousins primates. On est sur des réductions... On a juste 60% de la taille de bouche ou d'intestin des autres primates qui, eux, mangent cru. Parce que ils ont besoin de mastiquer plus, c'est-à-dire ils mastiquent plus longtemps dans la journée pour broyer les choses que la chaleur dénature, et d'un tube digestif plus long pour récupérer ce qui est moins récupérable dans un aliment cru.
Christophe Lavelle, quelle réponse feriez-vous?
Oui, je vais compléter la réponse de Marc-André. Il y a effectivement, quand on pense cuisson, on pense tout de suite à la transformation chimique de l'aliment, parce qu'effectivement, les réactions chimiques sont déclenchées par la chaleur, mais il y a aussi une modification physique qu'il ne faut pas oublier. Et de manière générale, cette modification physique va énormément influencer ce qu'on appelle la biodisponibilité des nutriments, qui fait qu'à partir d'une même composition chimique, le résultat net sur le système digestif va être très différent. L'exemple le plus classique qu'on prend, c'est une pomme. Si je prends une pomme et que je mange cette pomme, ou alors si cette pomme je la réduis en purée ou j'en fais une compote, indépendamment des modifications qu'il peut y avoir au niveau chimique, le résultat nutritionnel va être extrêmement différent parce que je vais manger quelque chose de liquide au lieu de manger quelque chose de solide. Donc à constitution chimique égale, ça n'a rien à voir d'un point de vue nutritionnel. Et la cuisson participe beaucoup à ça.
Il vaut mieux manger du solide ou du liquide?
En l'occurrence, il vaut mieux manger une pomme que boire un jus de pomme, ou bien sûr s'il est filtré encore pire, mais même boire un smoothie va déclencher une réponse glycémique qui est beaucoup trop violente par rapport au fait de manger la pomme, qui va nous libérer doucement les sucres qu'elle contient. Donc il va se passer le même genre de choses pour des cuissons, mais parfois pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on va, du fait de déstructurer les pectines, la cellulose dans les végétaux, on va rendre accessibles des nutriments qui n'auraient pas forcément été. Mais c'est vraiment ambivalent, parce que aussi la cuisson peut aussi détruire certains de ces nutriments. Donc en fait, chaque aliment nécessite une analyse un peu approfondie pour savoir d'une certaine manière, entre les bénéfices de la physique et de la chimie et les éventuels inconvénients, qu'est-ce qui l'emporte, et c'est assez complexe. Et l'autre facteur qui est lui est purement mental, j'allais dire, c'est que beaucoup de gens consomment du cru parce qu'ils ont cette idée que le cru est vivant. Donc le cru, c'est associé au vivant, et donc une espèce de force vitale, une alimentation saine, parce que qui dit vivant dit sain. Ce qui est totalement l'ordre du fantasme purement psychologique. Il est évident que... C'est plus vivant au sens biologique, c'est que je peux éventuellement replanter une feuille pour essayer de la refaire pousser, alors que cuite, j'aurais du mal, mais ça n'a aucun impact en soi sur l'intérêt de l'aliment ou sur le côté nutritionnel de cet aliment à travers ce prisme du vivant. C'est totalement... quand je mange une farine extraite d'un céréal, cette farine est très nutritive, elle n'a plus rien de vivant. Donc c'est totalement...
On est beaucoup dans les fantasmes, évidemment, dans les croyances. Dès qu'il s'agit de nourriture, nous-mêmes d'ailleurs, on a évolué comme ça. On a mangé ce que mangeaient nos parents, ou selon certains préceptes religieux. On est quand même énormément... Il y a beaucoup de fantasmes. Mais en même temps, on se dit que si on devait véritablement calculer chaque calorie mangée, ce serait horrible. Alors là, le plaisir, il ne serait plus là du tout non plus.
Le plaisir passe à la trappe, oui, effectivement. Mais c'est un peu le reproche que je fais à certaines applications maintenant qu'on a de plus en plus sur nos smartphones qui permettent, enfin qui sont censées nous aider à faire nos courses. Il y a un côté un peu débilitant dans l'utilisation. Oui, c'est très technique, c'est qu'on oublie son cerveau, on oublie sa culture, on oublie sa connaissance et on repose sur un algorithme qui va nous dire que ça c'est bon et ça c'est pas bon dans une construction qui est très limitée parce qu'un ingrédient en soi n'a pas d'intérêt. Et comme Marc-André l'a dit, ce qui compte c'est la construction globale de notre alimentation à l'échelle du repas, à l'échelle de la journée, à l'échelle de la semaine et même de la vie, on va dire. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune application qui nous permet de faire ça de manière facile.
Bon, bah Marc-André Sellos, on va suivre vos conseils, c'est-à-dire de manger varié. Vous avez dit que nous sommes omnivores, hein, vous l'avez dit tous les deux, mais peut-on, doit-on vraiment tout manger? Allez, vous nous répondrez, Marc-André Sellos, juste après Billy the Kick sur RFI. Mangez-moi, c'est votre choix à consommer avec modération tout de même.
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le chant des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là.
Heureusement, on avait des capuches
et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi.
C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Mangez-moi,
c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Au toit tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur.
Billy the Kick sur RFI, et oui, c'est la saison des champignons. Mangez-moi, ça c'est votre choix, Marc-André Sellos. Est-ce bien raisonnable pour un biologiste mycologue spécialisé dans les symbioses que de nous entraîner vers ces champignons-là?
Non, mais alors c'est un choix de musique.
Merci.
C'est pas un choix alimentaire et je déconseille fortement à cause des effets secondaires, notamment sur le système nerveux, l'abus de champignons hallucinogènes ou même leur utilisation. Et d'ailleurs, la plus grande précaution s'impose. On a encore eu 3 personnes intoxiquées avant-hier par des amanites phalloïdes, dont une est décédée. C'est d'ailleurs paradoxal de voir à quel point on est méfiant sur notre nourriture. On se pose des questions crues, cuites, avec viande, sans viande, huile d'olive, huile animale. Et en même temps, on est parfois capable d'un laxisme sur les champignons toxiques qui, au niveau de certains de nos concitoyens, c'est vraiment... Enfin, pose question, quoi.
Il y a d'ailleurs un de nos auditeurs, alors lui il vient de Lomé au Togo, innocent, et qui nous dit mais comment on reconnaît qu'un aliment est consommable? Et par exemple les champignons, vous n'allez pas nous faire un cours ici, mais...
Il n'y a pas vraiment de règle générale. Christophe évoquait tout à l'heure l'amer. C'est vrai que ça détecte beaucoup de molécules toxiques, mais pas toutes. Et d'ailleurs, il y a aussi des molécules amères qui sont amères sans être toxiques. Celles de votre vin ou de votre bière, les tanins, pour dire exact, qui sont... pour ceux qu'on a dans la bière ou dans le vin qui ne sont pas toxiques, justement. Donc, il y a malheureusement pas de règle générale et c'est pour ça qu'on apprend à manger. On apprend de nos parents qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, au passage, en circonvenant nos dégoûts. Nos dégoûts pour la mer, nos dégoûts pour le pourri. On apprend quels pourris, quels amers peuvent se manger. Donc, en fait, on l'apprend. Et aussi, il faut réaliser une chose, c'est que nous avons été sélectionnés au cours des siècles précédents parce que mangeaient nos ancêtres. Et pour revenir un petit peu plus haut, quand on parle notamment de l'alimentation paléolithique, elle était sans doute très très bonne pour les habitants du paléolithique. Mais nous, nous avons évolué depuis, je parlais tout à l'heure de l'adaptation à l'amidon des céréales ou au lait que maintenant les adultes digèrent dans les sociétés européennes, par exemple. Et donc, il ne faut pas vouloir revenir en arrière. On est le produit d'une évolution et il vaut mieux manger ce que mangeaient nos parents que d'essayer à tout prix de manger ce que mangent les autres. On a bien vu que quand les sojas sont arrivés en Europe, on s'est aperçu qu'ils étaient toxiques pour les Européens. Bon, ça a été géré depuis, mais il y avait une toxine, la datzéine, qui était une sorte de perturbateur endocrinien, qui était problématique pour les Européens. Que Dieu merci, les Asiatiques, eux, transformaient, annihilaient grâce aux microbes de leur tube digestif, donc ils n'avaient pas ce problème. Mais quand les Européens se sont trouvés confrontés à cet aliment nouveau, on s'est aperçu qu'eux n'y étaient pas habitués. C'est pareil pour le régime crétois, hein. Il est sans doute très bon pour les Crétois, je ne sais pas s'il est bon pour moi.
D'accord, donc il faut vraiment, là aussi, faire attention. Et pour en revenir à la mer ou à ces molécules toxiques que vous étudiez dans ce très bel ouvrage « Les goûts et les couleurs du monde » sur les tanins, Marc-André Sellos, ce sont en fait des protections des plantes elles-mêmes hein, contre ceux qui voudraient les manger.
Ah oui, ce sont des trucs qui les rendent immangeables pour beaucoup d'herbivores. Ce sont leurs molécules de défense. Et nous, face à ces molécules, la plupart du temps, on peut être intoxiqué. La morora, par exemple, c'est un tanin. Bon, alors après, tout dépend de la concentration et de quel tanin. Après, les tanins que j'ai dans mon vin, ceux que j'ai dans le clou de girofle, ceux que j'ai dans la cannelle, ceux que j'ai dans le céleri, ceux que j'ai dans le persil, ceux que j'ai dans le curcuma, la dose à laquelle on les met fait que ça stérilise un peu l'aliment, ça l'empêche de se contaminer par n'importe quelle bactérie. C'est quand même la racine de l'utilisation des épices, ça. Et en revanche, c'est à des doses et avec un choix de tanin qui est le résultat de longues tâtonnements culturels qui font que pour nous, par contre, c'est pas dangereux. C'est plutôt sain à cause de l'effet antibiotique et il faut le dire aussi, de l'effet antioxydant.
Autour de la question, qu'est-ce qu'on mange ici et ailleurs et pourquoi justement tant de diversité dans nos goûts, je propose un nouvel éclairage dans cette exposition « Je mange, donc je suis au musée de l'homme ». C'est celui de l'ethnologue Tatiana Fougal qui a expliqué in situ dans une des salles de l'expo à notre reporter Inès Edel Garcia pourquoi et comment nos choix alimentaires culinaires sont d'abord des choix culturels. On écoute cet éclairage de Tatiana Fougal. Au micro d'Inès Edel Garcia.
Il faut savoir que dans tout ce que l'environnement nous offre, les sociétés choisissent des aliments à consommer. Une infime partie. Et très souvent, ce n'est même pas leur qualité nutritive qui définissent la consommation. Souvent, c'est basé sur les traditions et sur les croyances. Et alors ces choix, ils peuvent être éliminatoires, c'est-à-dire on élimine de ce que la nature nous propose certains aliments parce que les traditions les interdisent, notamment la consommation de la viande de vache en Inde ou la consommation de la viande de porc dans les pays musulmans. Le deuxième champ de cette interférence de la culture dans l'alimentation, c'est la préparation des plats. Parce qu'en fait, on mange très rarement les aliments prélevé de la nature en état brut. On les transforme. Et même si on mange cru, quand même, on les coupe, on les râpe, on les assaisonne, etc. Et parfois, le même aliment peut être travaillé de manière complètement différente dans les cultures différentes.
Et puis là, au centre de la pièce, donc, on a différentes façons de manger.
On apprend, par exemple, que le thé au Sahara... C'est une tradition qui est toute récente, fin 19e, début 20e, mais qui est devenue vraiment le symbole des traditions alimentaires dans le désert. Et en fait, l'arrivée du thé, qui était une nouveauté à la fin du 19e siècle, il correspondait complètement aux traditions locales et il répondait aussi aux besoins. C'est-à-dire, c'est une boisson qui étanche la soif et elle coupe aussi la faim. C'est une boisson qui est consommée non fermentée, donc ça correspond un peu aux traditions et aux préceptes coraniques. Et c'est une consommation de thé, surtout qui correspond au mode de vie au Sahara.
Tatiana Fougal, est-ce qu'avec la mondialisation, on va finir par tous manger la même chose partout dans le monde ?
Non, justement, je ne pense pas. S'il y a un appauvrissement des aliments qu'on prélève de la nature, il y a une diversification pour moi des produits qu'on en fait. C'est-à-dire la cuisine, les technologies culinaires nous permettent d'enrichir de plus en plus la palette des plats que nous consommons. Plus il y a d'offres qui viennent de l'extérieur et qui tombent sur les traditions locales, plus il y a de produits qui seront inventés, créés. Donc pour moi, c'est tout le contraire.
Vous voulez réagir à ces propos de Tatiana Fougal, ethnologue recueillie par Inès Idel Garcia. Christophe Lavelle, je vous ai vu hocher un peu la tête.
Oui, sur la dernière partie, là, effectivement, sur cette idée qu'on va se mettre à tous manger la même chose. Je suis assez d'accord avec Tatiana sur le fait que c'est pas le vrai danger. C'est un danger qui guette éventuellement les villes. Aujourd'hui, on voit quand on voyage à travers le monde, dans toutes les grandes villes, il y a les mêmes chaînes, les mêmes enseignes. La même alimentation, mais qui est encore une fois très restreinte à un certain type de population, sans doute justement déconnectée de son environnement. Et dès qu'on s'écarte un peu et qu'on va dans les campagnes, on retombe sur une cuisine beaucoup plus associée à un terroir donné. Et donc c'est sans doute un phénomène sociologique, effectivement, et un clivage entre les citadins et les autres. Mais globalement, on a une variété qui est toujours extrêmement présente. Et même...
Ceci dit, il y a de plus en plus de citadins sur Terre. Hein. On habite de plus en plus en ville, donc on est de plus en plus attiré par ces enseignes.
On est de plus en plus soumis effectivement, à la pression de ces enseignes. Mais en même temps, il y a une vraie résistance qui s'organise, et notamment à travers la fierté qu'ont la plupart des peuples de leur gastronomie, et avec tout ce phénomène de patrimonialisation qui se met en place au sein de l'UNESCO. Il n'y a quasiment plus aujourd'hui un seul pays qui ne veut pas, d'une manière ou d'une autre, mettre en avant une préparation de boisson, un rituel de repas, ou une recette, pour que le monde entier soit au courant de cette œuvre dont ils sont fiers. Donc il y a quand même en même temps ce mouvement qui freine, justement.
Il y a la slow food aussi, hein, ralentir un peu... prendre le temps de la préparation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la gastro-diplomatie. Oui. Christophe Lavelle, expliquez-nous ce que c'est.
Là, on est vraiment, effectivement, dans ce que je viens de décrire, dans la notion de rayonnement. C'est-à-dire que historiquement, la gastro-diplomatie, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait de se retrouver à table pour prendre des décisions. Alors, c'est ce qu'on va avoir tout à Talleyrand, le congrès de Vienne, Carême, qui cuisine un grand dîner pour tous les grands de l'Europe. Et l'idée, c'est en même temps de créer les conditions d'un bon traité. Hein, ce que disait Talleyrand, donnez-moi de bons cuisiniers, ferait de bons traités. Et donc ça, c'est une des composantes de la gastrodiplomatie, c'est vraiment les discussions à table. Et puis, il y a aussi le facteur un peu plus tourné vers l'extérieur, de rayonnement, de manière de montrer sa puissance, mais en montrant sa culture, en fait. Où là, on va être dans des dîners d'apparat, où on va profiter de la présence de chefs d'État ou de représentants hauts dignitaires de différents pays pour montrer à quel point on a une cuisine sophistiquée, grandiose. Et on va retrouver donc des grands chefs qui font comme ça rayonner le patrimoine local d'un pays, avec toutes les retombées économiques aussi qu'il y a derrière. Il faut savoir que le tourisme en France est pour beaucoup sous influence très active de cette réputation qu'on a de bien manger chez nous. C'est un facteur d'attraction très important.
Et on se rend compte, Marc-André Sellos, quand on parle alimentation, nourriture, goût et couleur, qu'on touche à tout, qu'on touche à ce qu'on est, à ce que ça dévoile de nous en tant qu'être humain, qu'on touche à la politique, qu'on touche à la sociologie, à l'économie. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous voulez réagir au propos de Tatiana Fougal? Vers quoi vous pensez qu'on va? Vers une uniformisation des goûts et des couleurs?
Ce serait dommage. J'entends bien ce que dit Christophe, mais moi j'ai une crainte un peu opposée. Je vois bien à quel point la nourriture est culturelle. Et j'entends bien que dans la mondialisation, toutes les populations ne sont pas prises à des degrés égaux là-dedans. Mais on se retrouve avec une homogénéisation des aliments qui sont disponibles par le biais d'échanges. Je ne sais pas s'ils seront soutenables d'ailleurs pour des raisons... d'effets sur le climat global.
Environnemental, écologique, bien sûr.
Bien sûr, mais voilà, et on a une information où des modèles filmés, les séries par exemple que voient les enfants, qui s'homogénéisent. Moi, d'une part, je suis inquiet de cette homogénéisation, mais d'une autre part, je ne suis pas inquiet non plus qu'il y ait une évolution. Vous voyez, je voudrais dissocier le fait que cette évolution est homogénéisante, potentiellement ça m'inquiète, mais je voudrais revenir là-dessus. L'évolution de la nourriture, c'est parce que les civilisations évoluent et les cultures évoluent que de toute façon les aliments évoluent. Ça a joué. Penser que le camembert n'existe pas avant que l'augmentation, que Paris commence à consommer trop de livaro pour qu'on puisse continuer à produire du livaro, donc on va produire un autre fromage autour du Second Empire. Et ce fromage, ça va être le camembert, il n'existe pas avant. Les vins qu'on boit aujourd'hui sont produits d'une façon qui ne correspond pas du tout aux vins qu'on avait à la fin du 19e siècle. Donc moi, je ne suis pas choqué de l'évolution en elle-même. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à concevoir.
Ouais, il ne faut pas s'accrocher à une nourriture qui était mieux avant.
L'aspect culturel de l'alimentation, c'est surtout une genèse de nouveautés et non pas la préservation de ce qui se faisait avant. Les AOC, par exemple, actuellement, les appellations d'origine contrôlée ou les appellations géographiques d'origine protégée maintenant, sont un peu trompeuses là-dessus. Elles essaient de caler un cahier des charges qui, certes, permet aux consommateurs de savoir où a été produit et comment a été produit ce qu'ils mangent, mais d'un autre côté, elles nient un peu ce processus de renouvellement perpétuel culturel qui notamment s'incarne dans l'évolution de la nourriture.
Ah, notre nourriture, notre alimentation doit aussi être en mouvement autour de la question qu'est-ce qu'on mange et pourquoi aller. On préfère quand même les poulets bicyclettes aux poulets en batterie. On écoute Philippe Catherine sur RFI. C'est votre choix, Christophe Lavelle, poulet numéro 728120.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Philippe Catherine, sur RFI, pourquoi ce choix, Christophe Lavelle ?
Alors ce choix, parce que en fait, ça permet de rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est que c'est un peu une allégorie de l'hyper-uniformisation et mécanisation, industrialisation de notre alimentation d'aujourd'hui. On a parlé des changements, effectivement, ces changements, ils sont naturels, souhaitables. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut fixer un certain degré de qu'est-ce qu'on s'autorise comme changement. Qu'on soit passé d'environ 10 000 espèces consommées chez nos ancêtres paléolithiques, parce que c'est ce qu'ils avaient dans leur environnement à l'échelle planétaire, à aujourd'hui une quarantaine d'espèces qui nourrissent la planète, en soi, c'est pas très grave. Ou alors, effectivement, si c'est grave, c'est jusqu'à quel point, justement, on peut réduire cette diversité alimentaire. Le fait qu'on soit passé de 10 000 à 40, c'est parce qu'avec l'arrivage et la mise en place de l'agriculture, de l'élevage, on a évidemment restreint le nombre d'espèces qu'on ne peut pas se permettre de cultiver 5 000 espèces. Mais est-ce qu'on ne va pas tomber ? La réponse est sans doute oui. On est en train de tomber dans une sursimplification avec justement un nombre trop limité de variétés qui sont mises en culture ou qui sont mises en élevage.
Et qui sont mises en élevage en plus dans des conditions effroyables.
Par-dessus, effectivement, se retrouvent les critères qui sont non plus du tout écologiques, mais purement éthique, donc ce qui est très différent dans la nature du débat. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, c'est que souvent le débat, on mélange un peu tout.
Oui.
Mais il faudrait vraiment séparer les composantes éthiques des composantes écologiques de ces débats et savoir que dans cette monoculture ou ces monoélevages, effectivement, par corrélation, il y a souvent une mise en place de systèmes extrêmement intensifs dans lesquels le bien-être animal est mis à mal. Et c'est sans doute ça, d'ailleurs, qui est initiateur des réactions violentes qu'on voit aujourd'hui, très récentes. C'est-à-dire que ce malaise par rapport à la mise à mort d'un animal a toujours existé, mais aujourd'hui, je dirais qu'il émerge dans les débats de manière beaucoup plus prégnante qu'avant. Et des gens qui, il y a 10-20 ans, mangeaient leur poulet justement sans se poser de questions, aujourd'hui sont confrontés à des images, à des messages dans les médias et les réseaux sociaux qui leur font se rendre compte que ce poulet 7000 et quelques, ou 700 000 et quelques, pardon, n'est pas du tout anodin, qu'il relève d'une histoire, l'histoire du poulet, et que tout à coup, est-ce qu'on n'est prêt à accepter cette histoire, cet élevage en batterie, cette souffrance pour.
Et c'est vrai qu'il y a deux questions. Il y a la question éthique de l'élevage en batterie, et puis il y a aussi la question, bizarrement, on a l'impression que notre savoir culinaire ou nos possibilités culinaires s'étendent, et qu'en même temps, vous le dites bien, on s'arrête, on ne mange que certaines espèces et de moins en moins d'espèces. Ça se réduit aussi, notre champ des possibles culinaires s'est en même temps réduit aussi.
Bah, il est clair que si on va au supermarché, on a moins de profusion alimentaire que si on décide de se nourrir dans la nature, sauf que dans la nature, ça va faire appel à une connaissance et à une limitation des ressources qui va nous poser un autre problème. C'est-à-dire que la problématique au paléolithique, c'était de se nourrir, point barre, d'un niveau calorique qu'il fallait. Et puis aujourd'hui, on n'a aucun problème de ce côté-là. On a une profusion en termes caloriques qui est absolument phénoménale. Et la question est beaucoup plus, qu'est-ce que je vais faire comme choix dans ces calories? Et du coup, quels sont, dans cette batterie, dans ce choix qui est éventuellement restreint, quels sont les aliments vers lesquels moi-même je vais me porter, donc en restreignant encore plus ce choix. Et du coup, ça fait une espèce de système vertigineux où on est en train de se dire, on ne sait plus quoi.
On ne sait plus quoi manger, on ne sait plus s'il faut continuer à manger de la viande, en sachant que c'est bon ni pour nous, ni pour eux, ni pour la planète. Alors avant de devenir végétarien ou vegan, nouvelle question en forme d'éclairage de l'épidémiologiste et vétérinaire François Moutou.
La vie telle qu'on la connaît, en fait on la connaît que sur Terre jusqu'à présent, consiste en individus qui se développent, qui grandissent, qui se divisent. Et donc ils ont besoin d'accumuler de l'énergie sous forme de matière vivante, enfin, les protéines, les glucides et les lipides. Et encore quelques matières minérales autour, etc. etc. Or, pour réussir ça, il y a deux façons de faire connues sur Terre, autotrophie, hétérotrophie. Donc les plantes sont autotrophes avec leur chloroplaste, l'énergie du soleil, les gaz carboniques, l'eau, et puis après, elles se débrouillent. Et les hétérotrophes, tous les animaux, les champignons, on a besoin de manger les autres pour réussir à grandir, à se développer, à se reproduire.
De manger du vivant.
De manger du vivant. Alors, est-ce que l'espèce humaine qui pose quelques problèmes au reste du vivant, en plus qui ne sait pas encore contrôler vraiment sa démographie, pourrait arriver à trouver des solutions, puisqu'on fait beaucoup de biotechnologie, est-ce que ajouté aux mitochondries qui sont déjà des bactéries anciennes qu'on a symbiotisées, le mot n'existe pas, mais enfin voilà, est-ce qu'on serait capable de symbiotiser des chloroplastes pour ne plus dépendre des autres espèces vivantes, laisser le reste de la planète tranquille? Est-ce que le chloroplaste pourrait nous permettre de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche? Et éventuellement, imaginer un avenir meilleur, ou est-ce que c'est totalement inimaginable, impensable, immoral, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de pire, voilà.
Pourrait-on vivre comme les plantes, d'amour, d'eau fraîche et de soleil, Marc-André Sellos? Même les champignons, alors, ça ne leur suffit pas. Hein.
Bon, on n'est pas obligé de faire la photosynthèse pour vivre avec de l'amour. Hein. Déjà, on peut être hétérotrophe et amoureux, enfin moi ça m'arrive.
Oui.
Par contre, oui, pour ceux qui aiment Houellebecq, c'est la possibilité du Nil, où on a des hommes qui sont devenus chlorophylliens, qui sont capables donc de faire la photosynthèse parce qu'ils ont adopté les petites bactéries qui, chez les plantes, permettent de faire la photosynthèse et qu'on appelle les chloroplastes. En fait, ça, c'est un... Malheureusement, c'est
encore un
espoir.
Encore un fantasme.
Il faut bien voir que pour se déplacer, et pour être actif, et pour parler, pour faire tous les gestes que je suis en train de faire
en gesticulant, qu'on voit pas, mais je
il faut énormément d'énergie. Et que ça, la photosynthèse ne permet pas de le dégager. Il faut ingérer des quantités d'alimentation énormes, et ça, l'hétérotrophie le permet. Les plus petits animaux capables de vivre sans tube digestif et avec des bactéries photosynthétiques dans leurs cellules, ou des algues photosynthétiques dans leurs cellules, c'est des tout petits vers qu'on trouve sur les plages de Bretagne, qui ne font pas plus d'un millimètre de long.
Qui ne se déplacent pas beaucoup et qui ne dépensent pas beaucoup d'énergie.
Beaucoup moins que nous. Et puis les autres aussi qui font ça, mais justement, c'est des animaux qui sont redevenus immobiles, à cause de ça sans doute. Ce sont les coraux, qui sont des espèces de colonies d'anémones de mer, hein, en gros, prises dans une gangue calcaire, et qui vivent aussi de la photosynthèse de petites algues qu'ils contiennent, mais ça ne leur permet pas de se déplacer. Donc ça, c'est un mythe, hein, comme le mythe de quelques pilules qui suffiraient à se nourrir. qui a vraiment été envisagé très souvent dans les romans de science-fiction des années 70-80. Ça ne marche pas, mais tout ça n'empêche pas de vivre d'amour.
D'accord, donc ça on a bien compris. On peut vivre d'amour, d'eau fraîche et du vivant dont on se nourrit, qu'il soit animal, qu'il soit végétal, et avec du plaisir en fait. Justement. C'est quand même ça, hein, oui, Christophe Lavelle.
On revient à la notion de plaisir.
Ouais.
Se nourrir de pilules, c'est même beaucoup plus ancien, parce que Marcellin Berthelot, déjà un grand chimiste, fantasmé il y a plus d'un siècle sur un avenir qui pourrait, et un avenir souhaité hein, dans son discours, qui, grâce à la chimie, qui serait fait de pilules nutritives et donc tous les problèmes alimentaires à l'échelle mondiale seraient résolus, sauf justement le problème du plaisir, enfin qui n'est pas un problème. La question du plaisir était totalement
éludé. Du plaisir, de la convivialité, du temps qu'on passe à table.
Du facteur social que représente le fait d'être à table, mais aussi de cuisiner ensemble.
Bien sûr.
Et ça, aucune pilule ne peut le remplacer. Donc c'est quand même cette composante culturelle, alimentaire, qui est essentielle et qui fait qu'une société dans laquelle nous vivrions que du soleil est quelque part cauchemardesque.
En fait, oui, il ne faut pas du tout le souhaiter. Et finalement...
Inhumaine.
Oui. Est-ce qu'on est humain parce qu'on mange aussi, parce qu'on cuisine, parce qu'on se réunit autour d'un plat? Ça fait partie, c'est quand même la base de notre humanité. Est-ce que c'est ça aussi qui nous fait humain?
Alors, ça a participé à la construction de l'humanité, oui, bien sûr. Que ça soit le caractère humain, j'ai pas suffisamment de recul en éthologie. Bon, et le fait de manger dans un contexte social, il y a des animaux qui le font, beaucoup d'animaux qui le font. Après, cuisiner, c'est toujours très compliqué de ne pas faire d'anthropomorphisme. Quand on voit effectivement des animaux qui manipulent, qui choisissent des ingrédients, qui éventuellement utilisent des outils pour écraser. Bon, très souvent, on va dire « Ah, regardez, ils cuisinent ». C'est toujours un peu compliqué de se projeter comme ça. Donc,
Marc-André Sellos, en guise de conclusion.
La conclusion, c'est effectivement, c'est peut-être pas le propre de l'homme de manger, c'est sûr, mais les façons dont il mange quand même ont des traits assez forts, et notamment ce sont des traits culturels, et donc la façon dont nous mangeons, c'est une partie de notre identité. Et pour revenir aux inquiétudes qu'on évoquait plus haut, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point on peut maintenir nos identités. On a de la chance, nous, d'être en France, parce qu'on est un modèle. Mais quelque part, beaucoup de pays essaient finalement de faire de la cuisine à la française. Et moi, je peux manger français partout dans le monde. Mais est-ce que, par exemple, je peux manger basque partout dans le monde? Et ça, c'est une vraie question. C'est la question, finalement, de la préservation de l'identité. Et dans la nourriture aussi, on retrouve face à la globalisation.
Et cette identité qui change, puisqu'on l'a vu aussi, nos identités changent. Alimentaires et culinaires peuvent changer bien plus vite qu'on ne le pense. Merci infiniment, Marc-André Sellos, Christophe Lavelle, d'être venu en direct partager autant de goûts et de couleurs. Je rappelle le titre de votre excellent livre, Marc-André Sellos, paru chez Actes Sud, « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». Et je vous invite, chers amis auditeurs, si vous passez par Paris, à découvrir avec tous vos sens l'exposition « Je mange, donc je suis » au Musée de l'Homme. C'est jusqu'au 1er juin 2020 à déguster absolument et à suivre encore sur RFI. Ce sera fin novembre dans l'émission de Clément Zonavit, « Le goût du monde ». Merci messieurs.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour notre table ronde avec nos confrères et consoeurs de la presse scientifique. Il y aura, comme chaque mois, plein de magazines à gagner. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse? Merci de votre fidélité et de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.
Du lundi au vendredi,